Voici le journal de Sébastien Logeni. Bonjour Sébastien.
Bonjour Marc, bonjour à tous. À la une ce matin, une interview politique qui vire au combat de catch. Emmanuel Macron était hier soir au Palais de Chaillot pour son deuxième entretien de la semaine. Un entretien parfois chaotique sur la forme, mais que reste-t-il du fond des quelques annonces du président sur la SNCF, les personnes dépendantes ou les impôts? On y revient en début de journal. On y reviendra également, Marc, à 8h20 dans le grand entretien. Vous recevez le nouveau patron du Parti Socialiste.
Oui, Olivier Faure avec nous jusqu'à 8h40. Pas de coagulation des luttes sociales, a dit hier Emmanuel Macron. On essaiera de voir si c'est vrai. Est-ce que lui répond aujourd'hui l'un des visages de l'opposition? Vos questions dès maintenant. 01 45 24 7000. N'attendez plus, le standard est ouvert.
Au menu également, des députés d'En Marche qui se lèvent contre leur propre camp. Ils critiquent la réforme du droit d'asile. Le texte arrive aujourd'hui devant l'Assemblée. Regardez bien dans votre boîte aux lettres ou vos emails. La nouvelle déclaration de revenus est arrivée pour préparer le prélèvement à la source. Le Premier ministre canadien est en visite à Paris aujourd'hui. Justin Trudeau qui a perdu de son aura des débuts. Le PSG muet sur la scène européenne, mais tonitruant dans l'Hexagone. 7e titre de champion de France. Et enfin, un peu de douceur avec la voix d'Anna Karina, l'une des muses de Jean-Luc Godard, qui sort un disque ces jours-ci. On lui avait donc promis du sport, promesse tenue hier soir pour la deuxième intervention télévisée d'Emmanuel Macron en 4 jours après l'interview tout en rondeur de Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Le chef de l'État était bousculé hier soir pendant 3 heures par 2 journalistes bagarreurs, Jean-Pierre Bourdin pour BFM et Louis Plenel pour Mediapart, avec au final beaucoup d'accrochages, de confusion et quelques rares annonces un peu perdues au milieu des prises de bec. Alors tentons malgré tout de faire ressortir l'essentiel. Bonjour Cyril Graziani.
Bonjour.
On attendait d'abord Emmanuel Macron sur le conflit du moment, la réforme à la SNCF.
Et déjà, le chef de l'État réaffirme que la SNCF ne sera pas privatisée. La réforme vise, selon lui, à rendre l'entreprise plus forte. Et sur la question de la dette, il est allé un poil plus loin que jeudi sur TF1.
À partir du 1er janvier 2020, quand rentrera donc en vigueur cette réforme de la structure de l'entreprise, nous reprendrons progressivement la dette. Jusqu'où? Ce sont les débats avec les organisations syndicales des prochaines semaines qui le diront. Est-ce que je peux faire l'économie de cette réforme? Non. Mais je vous dis très clairement, oui, il y aura de la reprise de dette de l'État. Oui, plus on aura une réforme ambitieuse collectivement, plus l'État la reprendra. Et je ne veux pas là-dessus qu'il y ait de jeu de poker menteur.
Alors en face, qu'en pensent les syndicats, Cyril, pour qui la reprise de la dette est l'une des revendications principales? On écoute la déception d'Olivier Bouissou, le numéro 2 de la CFDT Cheminots.
En fait, il n'a rien annoncé de nouveau. À chaque fois qu'on a des rencontres au ministère, on nous dit que de toute façon, la dette, ça serait sûrement réglé ou il y aura en partie pendant le quinquennat. Par contre, on a bien compris qu'elle serait par contre en fonction de ce que les cheminots seraient susceptibles d'accepter comme modification des règles dans l'entreprise. Et on a vu quand même qu'il a raconté pas mal de choses contre les roulants. Le statut des cheminots qui coûterait cher, le coût des 30% plus cher, il n'y a que dans cette entreprise que les roulants ont des avantages, ont des horaires aménagés, tout ça. Enfin, c'est purement scandaleux. Il parle pas des salaires, des déroulements de carrière, qui sont bien moins bons que dans le privé. Donc, c'est vraiment à charge. Et c'était vraiment pas de nature à nous faire rentrer dans les dépôts, quoi. Bien au contraire. Je crois qu'il aurait voulu mettre de l'huile sur le feu. Il ne s'y serait pas pris autrement. Hein.
Voilà, Olivier Bouissou pour la CFDT Cheminots. Je reviens vers vous, Cyril Graziani. Autre annonce à retenir d'hier soir sur les EHPAD et le financement de la prise en charge de la dépendance.
Oui, la possibilité d'un 5e risque pris en charge par la Sécurité sociale pour financer cette dépendance. Emmanuel Macron a avancé une piste, une 2e journée travaillée non payée.
Il n'y aura pas de création d'un nouvel impôt local, ni d'un nouvel impôt national, et il n'y aura pas d'augmentation de la pression de cet impôt. Ce qui veut dire que...
Alors, on va réécouter Emmanuel Macron, qui là parlait des hausses d'impôts. Pas de hausse d'impôts d'ici la fin du quinquennat, disait hier soir.
On y reviendra
le
après.
Chef de l'État,
d'abord sur la 2e journée travaillée non payée.
Est-ce que ça a bien marché la dernière fois?
1,5 milliard, ça devrait rapporter.
Moi, je ne suis pas contre. Je pense que c'est une piste intéressante. Il faut le regarder. Ce qui est sûr, c'est que on doit construire cette solidarité.
Un 5e risque?
Oui.
Emmanuel Macron a assuré dimanche que la fiscalité n'augmenterait pas en France durant son quinquennat et que pour compenser la suppression de la taxe d'habitation, le gouvernement ne créerait pas de nouvel impôt.
Il n'y aura pas de création d'un nouvel impôt local, ni d'un nouvel impôt national, et il n'y aura pas d'augmentation de la pression de cet impôt. Ce qui veut dire que là, nous compensons à l'euro par les économies qui sont faites par l'État, et puis il y aura un élément de substitution, c'est-à-dire qu'on donnera à l'une des collectivités un bout d'impôt national et il y aura une recomposition entre les collectivités.
Enfin, la future réforme des retraites supprimera tous les régimes spéciaux, a-t-il confirmé, et établira des règles transparentes. Là encore, sans en dire plus, coupé une fois encore par l'un des deux intervieweurs, ce qui résume bien la tonalité de cette soirée.
Cyril Graziani du service politique de France Inter, merci. La déclaration en fin d'hier soir, celle qui marque, vous le disiez à nouveau, la fermeté de l'exécutif, c'est celle sur les mouvements sociaux, la grève des cheminots, le blocage des universités, la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Le président n'y voit aucune coagulation des mécontentement. Le chef de l'État n'a tout simplement rien compris à la colère des Français. C'est l'avis en tout cas d'Hugo Bernalici pour la France Insoumise.
Je me suis bien dit qu'il ne voulait pas employer le terme de convergence des luttes, mais moi, coagulation, ça ne me pose pas de difficulté. Ce qu'on a vu ce soir, c'est finalement vraiment le président des riches qui est complètement déconnecté, qui est resté coincé dans sa bulle et qui ne comprend pas qu'il puisse y avoir un lien entre la lutte des cheminots et la lutte des personnels dans l'hôpital public ou dans les EHPAD. Enfin, le lien, il est évident, c'est qu'il y a un sous-investissement dans ce pays, dans ces secteurs-là, et que les salariés de ces différents secteurs tirent la langue, et que du coup, il y a une contestation commune qui sont les politiques d'austérité qui sont menées dans le pays. Et ça, s'il n'est pas capable de le voir, ben c'est tout. Il va avoir le droit à la mobilisation qu'il mérite, qui, à mon avis, va aller en s'amplifiant.
Hugo Bernalici, l'un des porte-parole de la France insoumise. Et puis dernier élément pour être tout à fait complet, l'international, l'opération en Syrie était réussie et légitime. Selon Emmanuel Macron, il ne s'agit pas d'une déclaration de guerre, mais de représailles. À noter d'ailleurs qu'un débat aura lieu ce soir à 17h à l'Assemblée et au Sénat, un débat sans vote. Un président accroché à la télé, donc par des journalistes hier soir, et aujourd'hui, autre combat politique en perspective, Gérard Collomb face aux députés. Le ministre de l'Intérieur va devoir ferrailler dur pour défendre son texte sur l'asile et l'immigration, notamment contre sa propre majorité à l'Assemblée. Pour la première fois, en effet, des élus d'En Marche s'apprêtent à s'abstenir de voter ce texte, accusé d'être trop répressif. Karine Bécard.
D'un côté, il y a la version officielle que défend parfaitement celle qui a été nommée rapporteure du texte, la députée de Paris, Élise Fagelès.
Ça se présente bien parce que oui, on a avancé sur beaucoup de points. On a réussi à trouver un vrai équilibre avec le gouvernement et à rajouter des choses qui n'y étaient pas. Je pense que tout le monde peut se retrouver sur une position de consensus.
En fait, pas tout à fait, parce que d'un autre côté, certains députés de la majorité ont tout de même décidé, eux, d'amender le projet de loi. C'est le cas de Martine Vonner qui a déposé une trentaine d'amendements.
Nous sommes un groupe majoritaire de plus de 300 personnes. Je ne vois pas comment, dans un groupe aussi important, nous puissions tous être alignés, surtout sur des questions aussi en lien direct avec les droits des personnes.
Elle veut continuer à discuter, donc. En revanche, pour cet autre député de la majorité, Jean-Michel Clément, l'affaire est déjà réglée.
Moi, je ne voterai pas ce texte, sans hésitation, mais je l'ai déjà dit, et j'en ai plus encore la conviction au sortir de la commission des lois.
S'il vote vraiment contre, il court le risque d'être exclu du groupe de La République En Marche. Mais cet ancien député socialiste ne voit plus très bien pourquoi il en fait encore partie.
Karine Bécard, on a failli le faire à deux voix, du service politique de France Inter. Attention, l'impôt nouveau est arrivé, ou presque.
Ouais, plus exactement, la déclaration de revenus 2017. Depuis le 8 avril, certains d'entre vous vont trouver dans leur boîte aux lettres ou leur boîte mail cette déclaration de revenus. Elle prépare le prélèvement à la source qui sera généralisé à partir du 1er janvier 2019. Bonjour Mickaël Thébault.
Bonjour.
Chef du service économique de France Inter. Il y a donc quelques nouveautés dans cette déclaration.
Ah oui, d'abord dans la forme, puisqu'une fois entré votre numéro fiscal et votre code, une petite vidéo de démonstration apparaît à l'écran.
Le prélèvement à la source, c'est pour le 1er janvier 2019.
Et cette voix va vous guider comme cela jusqu'au bout de la déclaration, c'est-à-dire jusqu'à la signature. Et là, justement, avant de signer, vous découvrez le montant de votre impôt sur le revenu. Et surtout, c'est la nouveauté, une autre ligne qui vous indique votre taux de prélèvement à la source, taux qui dépend évidemment de vos revenus. Et une fois signé, eh bien vous avez deux options. Si vous êtes marié ou pacsé, vous pouvez individualiser ce taux de prélèvement. Évidemment, très pratique si vos revenus diffèrent beaucoup de ceux de votre conjoint ou conjointe. Vous payerez en fonction de ce que vous gagnez. Et puis, autre nouveauté, vous pouvez choisir de ne pas transmettre votre taux réel à votre employeur. À la place, c'est un taux neutre qui lui sera transmis. Et une nouvelle case vous permet alors de calculer le complément à régler au fisc tous les mois. Mais attention, en cas de versement insuffisant, vous serez passible d'une pénalité, voilà prévenu. Et des options que vous pouvez modifier sur le site, hein, jusqu'au 15 septembre.
Mickaël Thébault, la disparition du petit Léo, âgé d'à peine 3 ans, dans la région de Rouen, on a plus de
nouvelles de ce petit garçon depuis samedi 17h30, alors qu'il jouait dans le jardin de sa maison de Romilly-sur-Andelle, dans l'Eure, un jardin situé à quelques dizaines de mètres d'un affluent de la Seine. L'hypothèse de l'accident reste la piste principale.
8h10 à l'étranger, nouvelle volée d'insultes entre Donald Trump et l'ancien patron du FBI.
James Comey était hier soir sur ABC, un entretien très attendu à la veille de la sortie de son portrait au vitriol contre le président américain. Pour l'ancien directeur de la police fédérale, Donald Trump n'est pas médicalement inapte à être président, mais moralement inapte, réplique de l'intéressé dans un tweet. James Comey est de loin le pire directeur de l'histoire du FBI, une raclure. Fin de citation. Le premier ministre canadien, lui, Justin Trudeau, est en visite officielle en France. Aujourd'hui, sa première, une visite de 2 jours sur fond d'économie et de sécurité internationale. Il va notamment faire un discours à l'Assemblée nationale. Un Justin Trudeau qui n'a plus l'aura du début de son mandat. Marie-Laure Josselin.
Oh, Justin.
Quand Justin Trudeau a été élu, Connie Gray-Hise, l'une des militantes des Premières Nations les plus actives de l'Ouest canadien, était assez pleine d'espoir. Il allait faire beaucoup plus pour les questions des premiers peuples que son prédécesseur conservateur Stephen Harper. Mais 2 ans et demi plus tard, le constat est cinglant. Oui, il a fait plus. Justin Trudeau a mis en place, par exemple, l'enquête nationale sur les femmes autochtones disparues et assassinées. Mais pour Connie, on reste en surface. Un gouvernement qui ne fait que le minimum, juste pour dire qu'il fait quelque chose. Le professeur en sciences politiques Frédéric Boilly de l'Université de l'Alberta le reconnaît, l'étoile de Justin Trudeau.
Elle a beaucoup parlé parce qu'il avait beaucoup annoncé. Maintenant qu'on a passé la mi-mandat, Justin Trudeau se retrouve avec un bilan qui n'est pas très reluisant.
Une étoile qui a bien pâli aussi au niveau international, selon le chercheur Jocelyn Coulon, qui vient de sortir un livre critique, un selfie avec Justin Trudeau.
Un peu partout dans le monde, on a été ébloui par la personnalité de Justin Trudeau et on se demande toutefois où le Canada est-il sur la scène internationale.
Pour le professeur en sciences politiques Frédéric Boilly, c'est clair.
Là, le temps des sourires et des selfies doit vraiment être mis de côté pour faire preuve d'action.
À Montréal, Marie-Laure Josselin pour France Inter.
Allez, un mot de sport. Est-ce ce nouveau sacre pour le PSG, mais un sacre sans joie? Le Paris Saint-Germain est devenu hier soir champion de France pour la 7e fois de son histoire. 7 buts à 1 face au dauphin Monaco. Leçon de foot dans un stade sans voix. Ou presque, le reportage de Franck Ballanger.
Après l'élimination en 8e de finale de la Champions League, le PSG se devait de récupérer le titre de champion de France abandonné à Monaco la saison passée. C'était clairement l'objectif de Nasser El Khelaifi, le président du club. Objectif atteint.
Je suis très heureux de ce 7e titre. Je pense que c'était vraiment très important pour nous, pour le club. Spécialement l'année dernière, on a perdu contre Monaco. Aujourd'hui, on gagne le titre contre Monaco. 7-1, magnifique match, parfait.
7-1 pour un 7e titre de champion de France. Le 5e depuis que les Qatariens sont arrivés à la tête du PSG. Le seul joueur à avoir participé à toutes ces conquêtes, c'est l'Argentin Javier Pastore.
Oui, ça fait beaucoup, ça fait plaisir aussi. On est très heureux puisque c'est jamais facile. Ça semble facile, mais on a travaillé beaucoup pour gagner.
Paris heureux, Monaco honteux. Andrea Raggi, le défenseur italien de l'ASM, n'avait qu'une envie, se faire tout petit.
On a fait un match catastrophe. Franchement, la seule chose que je me sens de dire, c'est pardon à tous les supporters. Paris, c'est une super équipe, c'est une équipe costaud, mais nous, ce soir, on était trop faibles.
Et pour tenter de se faire pardonner cette déroute, les dirigeants monégasques ont d'ores et déjà annoncé qu'ils vont rembourser leurs supporters qui ont fait le déplacement au Parc des Princes hier soir.
Le reportage de Franck Ballanger. On le sait depuis une semaine, Jean-Luc Godard sera donc en compétition officielle à Cannes et c'est une image de son film Pierrot le Fou qui sera à l'affiche officielle de cette 71e édition. Sur cette affiche, souvenez-vous, Jean-Paul Belmondo, le visage bleu et l'égérie de Godard, Anna Karina, actrice, mais aussi chanteuse. Elle va sortir un disque ces prochains jours, des morceaux qui sont disponibles récemment sur une compilation intitulée « Je suis une aventurière ». Mathieu Culeron a rencontré Anna Karina à Paris.
Moi j'ai une toute petite ligne de chance.
Dans son enfance, la petite Danoise Anna Karina écoute de la musique classique, mais elle se découvre vite une passion pour le jazz.
Ah, je chantais depuis toute petite, même dans la rue. J'ai chanté et dansé. Et moi, j'adorais Louis Armstrong. J'ai dit à mon grand-père, quand je serai un peu plus grand, j'épouserai Louis Armstrong. Mon grand-père m'a dit, mais t'es complètement folle, c'est une star.
C'est évidemment le cinéma et Jean-Luc Godard qui lui donneront la chance de s'adonner à son plaisir favori, le chant.
Un
tout petit. J'avais aussi chantonné dans Une femme et une femme, dans un film de Maurice René, Les voilà de Thibaut Dabo, aussi dans Pure le fou, jamais je ne t'ai dit que je t'aimerais toujours, oh mon amour.
Jamais je n'aurais cru que tu me plairais toujours, oh mon amour.
Lorsqu'on lui propose la comédie musicale Anna avec Gainsbourg, le rêve d'Anna Karina devient réalité.
Ils m'ont demandé si j'avais envie de faire une comédie musicale. Moi, je dis, mais oh, une comédie musicale, mais c'est trop bien, quoi, c'est trop génial. Je dis, je suis ravi, je m'en foutais ce que je racontais.
Je suis une aventurière, la compilation des plus belles ritournelles d'Anna Karina, avec en prime quelques inédits, bande-son parfaite de cette 71e édition du Festival de Cannes.
Le reportage de Mathieu Culeron, je suis une aventurière, la compilation d'Anna Karina.
On termine avec la mort d'un acteur dont le nom ne vous dira sans doute pas grand-chose.
Oui, mais l'une de ses répliques, sans doute, il s'agit de Lee Hermé, il avait 74 ans. C'est lui qui incarnait le sergent Hartman dans Full Metal Jacket de Stanley Kubrick.
I am Gunnery Sergeant Hartman, your senior drill instructor. From now on, you will speak only when spoken to. And the first and last words out of your filthy sewers will be, sir. Do you maggots understand that?
Sir, yes, sir.
Bullshit, I can't hear you. Sound off like you got a pair.
Sir,
yes, sir, un acteur entré dans l'histoire du cinéma par une réplique. Lee Hermé était un ancien marine lui-même. Il avait participé à la guerre du Vietnam.
Yes, sir,